de l'année 2017. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec bonheur que nous vous retrouvons ce matin en vous disant Mbote Nabiso Banso et Djambo pour nos amis et collègues de Goma, tout en vous souhaitant la bienvenue à cette première conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies qui ouvre ainsi notre cycle de rencontres périodiques pour l'année qui commence. Comme pour l'année 2016, nous espérons qu'elle fera l'objet d'une longue série d'échanges fructueux et enrichissants pour vous informer de manière objective, pour informer de manière objective les populations congolaises. Tout d'abord, permettez-moi encore une fois de réitérer notre profonde gratitude à tous les collègues journalistes ainsi que les médias qui nous ont accompagnés tout au long de l'année 2016. Nos remerciements vont également à nos fidèles auditeurs de Radio Okapi à travers tout le territoire de la RDC, mais aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la toile. À toutes et à tous, donc, recevez à l'entame de cette nouvelle année nos vœux les meilleurs de bonheur, santé, prospérité et plein succès dans vos entreprises futures. Ces vœux s'adressent aussi à vos familles, vos proches et formulons des prières pour l'instauration d'une paix durable en RDC, objectif qui nous interpelle tous à cet égard. J'espère, chers collègues, que ce premier rendez-vous de l'année 2017 sera plus interactif et dynamique. J'ai aussi, je vous dis que le docteur Mamoudou Diallo, qui était censé être avec nous ce matin, sera absent. Donc, nous prendrons les questions d'ordre humanitaire et de développement. À mes côtés, ici à Kinshasa, Aude Rossignol, qui représente le groupe de communication des Nations Unies, nous fera le point des activités menées par l'équipe pays durant la période écoulée. Et c'est avec un réel plaisir que je vous présente le lieutenant-colonel Serge Hag, le nouveau porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, qui procédera à un rapide survol de la situation sécuritaire qui prévaut dans les différentes provinces du pays. Pour votre information, le lieutenant-colonel Serge Hag est membre de l'armée nationale de la République du Bénin. Il appartient au corps de l'arme blindée et cavalerie. Il est marié et père de 4 enfants. Donc, sans tarder donc, mesdames et messieurs, nous démarrons cette conférence de presse par l'annonce de la prise de fonction depuis le 1er janvier 2017 du nouveau secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui devient ainsi le 9e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et succède ainsi à M. Ban Ki-moon, arrivé au terme de son mandat le 31 décembre 2016. Ayant vu souffrir les êtres humains les plus vulnérables de la planète dans les camps de réfugiés et dans les zones de conflit, le secrétaire général est résolu à mettre la dignité humaine au cœur de son action, à se faire l'agent de la paix, à bâtir des passerelles et à promouvoir la réforme et l'innovation. Avant son élection à la tête de l'Organisation des Nations Unies, M. Guterres a été haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de juin 2005 à décembre 2015. Avant de travailler au HCR, M. Guterres a passé plus d'une vingtaine d'années au service de l'État et dans la fonction publique. Il a été Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, période au cours de laquelle il a joué un rôle de premier plan dans l'action internationale engagée pour mettre fin à la crise au Timor-Leste. M. Guterres est né à Lisbonne en 1949. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur Tecnico. Il parle couramment le portugais, l'anglais, le français et l'espagnol. Il est marié et père de 2 enfants. Dès sa prise de fonction, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel à la paix en ces termes, je le cite: « En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? Une force meurtrière décime les civils, des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l'exil, dépossédés et démunis. Même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible. Dans ces guerres, il n'y a aucun gagnant, tout le monde est perdant. Des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Les régions entières sont déstabilisées et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous. En ce jour de l'an, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017, où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, aurons tout fait pour surmonter nos différences, de la solidarité et de la compassion dans notre vie quotidienne, au dialogue et au respect, quels que soient les clivages politiques, des cessez-le-feu sur le champ de bataille, au compromis, à la table des négociations pour parvenir à des solutions politiques. La paix doit être notre objectif et notre guide. Tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine, La dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité dépendent de la paix. Mais la paix dépend de nous. Engagez-vous à mes côtés au service de la paix jour après jour. Faisons de 2017 une année pour la paix. Merci. Fin de citation. Vous aurez donc l'intégralité du message et de la biographie du nouveau secrétaire général des Nations Unies à la fin de la conférence de presse. Sans transition donc, passons aux activités menées par les composants de la MONUSCO. La section protection de l'enfant qui nous informe que le dernier trimestre de l'année 2016 a été particulièrement meurtrier pour les enfants vivant à l'est de la RDC. C'est sans doute pour la première fois que la section protection de l'enfant de la MONUSCO enregistre autant de cas d'enfants blessés ou tués par les groupes armés dans la province du Nord Kivu. En 3 mois, 55 enfants ont été tués et 48 blessés, principalement au Nord Kivu et dans le territoire de Lubero. Les enfants ont été aussi durement touchés par le conflit interethnique entre les Twa et les Luba dans la province du Tanganyika. On estime que l'accès à l'éducation de plus de 50 000 enfants a été freiné à cause de ce conflit. Les principaux auteurs de ces actes sont des éléments Maïma et Mazembe qui ont attaqué des personnes déplacées internes et ont ciblé directement les enfants. Lors d'une de ces attaques, 18 enfants ont été tués et 14 autres blessés. Les enfants blessés ont été évacués à Goma par la MONUSCO. L'un d'entre eux est mort au cours de son évacuation médicale. La section protection de l'enfant de la MONUSCO a extrait 175 enfants des groupes armés pendant ce trimestre, dont 9 filles. Plus de la moitié a été recrutée en 2016. Un quart avait déjà moins de 15 ans au moment du recrutement, ce qui constitue un crime de guerre. Les principaux auteurs de recrutement pour ce trimestre sont les Maïmaï Nyatura, les FDLR Foka et les combattants du FRPI. Des enfants ont également été recrutés et utilisés par de nouveaux groupes armés comme les Maïmaï Corps du Christ et l'UPLC, l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo. Information concernant la section genre de la MONUSCO qui nous dit qu'en appui au bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac, des journées portes ouvertes sont organisées du 31 janvier au 2 février 2017 avec les femmes leaders de la région en vue de commémorer le 16e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La thématique retenue sera « La paix dans les Grands Lacs, entendre et inclure la voix des femmes dans tous les processus de paix et politique ». Il s'agira donc, à travers cet événement, de renforcer les capacités des femmes leaders en leadership et en participation politique, de réaliser le bilan sur la participation des femmes dans la mise en œuvre de la résolution 1325, de formuler des recommandations concrètes sur les actions à mener, de développer un document final à présenter avec la déclaration de Goma, juillet 2016, des femmes de la région, aux représentants de la haute délégation régionale qui participeront à ces journées portes ouvertes. Il s'agira aussi de formuler un acte d'engagement des ministres et des leaders régionaux pour le suivi des recommandations et rapporter au système qui sera mis sur pied pendant ces journées. Ces journées portes ouvertes auront donc lieu à Goma, à l'hôtel Cap Kivu. Vous aurez plus d'informations dans le verbatim qui vous sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Et donc, sans tarder, je passe la parole à ma collègue Aude Rossignol, qui remplace à ce titre Florence Marchal, pour nous faire un rapide survol des activités menées par l'équipe pays des Nations Unies pendant la période écoulée. Aude, bonjour, bienvenue à notre conférence de presse. Vous avez le micro.
Bonjour Félix, bonjour à toutes et à tous, et une très bonne année 2017. Aujourd'hui, 3 nouvelles émanant du secteur humanitaire. La réponse humanitaire se met en marche à Boma, au Congo central, après les importantes inondations survenues dans la nuit du 26 au 27 décembre. Ces inondations figurent parmi les plus meurtrières que la province ait connues. Des pluies diluviennes ont fait plus de 40 morts et disparus, dont 30 enfants et plus de 24 000 sinistrés. Plus de 1000 maisons ont été détruites ou emportées par les eaux, 17 écoles inondées, 14 structures sanitaires affectées ainsi que 2 ponts endommagés. Les enfants représentent malheureusement 65% des sinistrés, un chiffre plus élevé que la moyenne nationale qui est de 48% pour des événements similaires. Cette situation s'explique par le fait que les intempéries ont touché des zones fortement peuplées. Face à l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la province du Congo central a mis en place un comité de gestion qui comprend entre autres OCHA, l'OMS, UNICEF et des ONG locales et internationales. Cette coordination a permis notamment d'apporter des vivres et des articles ménagers essentiels à une partie des familles affectées. Des entreprises et des individus ont également fourni divers produits et des contributions financières. Le gouverneur distribue actuellement une partie, une première aide en vivres et articles ménagers essentiels aux familles qui ont perdu un de leurs membres. Un site a également été identifié par le gouverneur provincial pour mettre à l'abri les ménages affectés en cas d'éventuelles nouvelles intempéries. Cependant, les besoins dépassent largement la réponse apportée à ce jour. Plus de 10 000 moustiquaires imprégnés, matelas et couvertures sont requis. Plus de 100 000 tôles sont nécessaires pour réfectionner les infrastructures sanitaires et scolaires touchées. Les sinistrés ont également besoin de nourriture, de médicaments, de kits scolaires et d'ustensiles de cuisine. Selon le gouverneur, plus de 2 300 000 dollars seront nécessaires pour répondre aux besoins immédiats et pour des actions d'aménagement du territoire. En province Tanganyika, la communauté humanitaire est très inquiète face à l'ampleur et aux conséquences du conflit intercommunautaire qui sévit depuis plusieurs mois entre les communautés Luba et Twa. Cette crise est de plus en plus ponctuée d'actes de violence qui empêchent les acteurs humanitaires de venir en aide aux populations vulnérables. En plus de ce contexte sécuritaire très inquiétant, la province fait face à une épidémie de choléra qui touche actuellement 6 zones de santé. Selon la division provinciale de la santé, la zone d'Ankoro a enregistré 60 cas de choléra, dont 2 décès les 2 et 3 janvier. La réponse contre la maladie est entravée par un déficit de médicaments et d'acteurs humanitaires spécialisés dans le domaine de la santé. Par ailleurs, la rougeole continue de faire des ravages dans le Tanganyika. La zone de santé de Nyunzu étant la plus touchée de toutes. La vaccination contre la maladie a commencé depuis le 19 décembre et se poursuit à Nyunzu, ciblant plus de 86 000 enfants de 6 mois à 10 ans. Une autre campagne de vaccination contre la rougeole appuyée par UNICEF a été lancée depuis le 3 janvier dernier. Alors, dimension humanitaire de la présence des réfugiés sud-soudanais. À la date du 31 décembre 2016, la Commission nationale des réfugiés et le Haut Commissariat pour les réfugiés avaient recensé plus de 67 000 réfugiés en RDC. Cette population réfugiée est largement composée de femmes et d'enfants, qui constituent plus de 80% de cette population totale de réfugiés. Face à ces mouvements importants, le gouvernement de la RDC a établi 2 sites d'accueil pour les réfugiés, notamment à Biringi, territoire d'Aru, province de l'Ituri, et à Meri, territoire de Faradj, province du Haut-Uele. Le site de Biringi compte actuellement près de 850 réfugiés et celui de Meri, plus de 12 000 réfugiés. Il est apparent que malgré les efforts de sensibilisation de la Commission nationale des réfugiés et du HCR, une large portion des réfugiés demeure encore dans des sites spontanés et des villages le long de la frontière entre la RDC et le Sud-Soudan. Ceci est partiellement expliqué par les déplacements pendulaires de personnes voulant accéder à leurs terres et à leurs récoltes dans les villages d'origine. Les défis et risques de la situation. Avant de parler de ces défis, de la situation actuelle, il sied de rappeler l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Devant la persécution, toute personne a le droit de rechercher asile et de bénéficier d'un asile en d'autres pays. Néanmoins, face à la réalité et à la complexité de la situation actuelle, la mise en œuvre pratique de ce principe et des obligations sous le droit international fait face à 2 défis majeurs. Le premier est celui de la distinction. D'un point de vue humanitaire et d'assistance, il est impératif de promouvoir de pouvoir distinguer entre réfugiés, ces populations sud-soudanaises réfugiées et non combattantes, qui sont sous la protection d'instruments internationaux et régionaux de protection, tels que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, et certains éléments armés de la SPLMIO, utilisant le territoire congolais comme base arrière. Le second défi est étroitement lié au précédent. Il s'agit notamment de la protection de zones d'accueil, de sites de réfugiés, d'infiltration et des menaces qui émanent des éléments armés SPLM-IO. En termes d'assistance humanitaire, les agences des Nations Unies demeurent engagées auprès de leurs contreparties congolaises. Le HCR fournit un soutien en termes d'enregistrement des personnes réfugiées, d'abri et de gestion des sites de réfugiés, ainsi que d'autres types d'assistance. Le PAM fournit des vivres aux réfugiés et la FAO soutient les activités agricoles sur les sites de réfugiés.
Merci à Aude pour avoir partagé ces informations avec nous. Je passe tout de suite la parole au lieutenant-colonel Serge Hague pour nous brosser le tableau sécuritaire qui prévaut dans les différentes provinces du pays. Bonjour mon colonel, bienvenue parmi nous aujourd'hui à Kinshasa. Vous avez la parole.
Merci. Situation militaire en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à Kinshasa et dans les autres provinces situées dans l'ouest de la République démocratique du Congo est jugée stable pendant la période sous examen. Toutefois, dans la province du Kasaï central, les accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les éléments de la milice Kamuina Sapo ont été rapportés le 22 décembre 2016. La force de la MONUSCO a, dans le cadre de la lutte contre les forces négatives, déployé des troupes dans la région de Kananga dans le but de sécuriser les populations civiles. Le 2 janvier 2017, des éléments de la milice Kamuina Sapo ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de Bukonde, à 60 km au sud-est de Kananga. Les troupes de l'armée congolaise ont riposté et tué 10 assaillants. Le 4 janvier 2017, environ 100 éléments de la milice Kamuina Sapo ont attaqué la localité de Timbulu, située à 84 km au sud-est de Kananga, vandalisé le poste de la police et tué un individu. L'armée congolaise a promptement déployé des renforts dans la région affectée et rétabli le calme dans la zone. Dans les provinces du Haut et de Bas-Ouélé, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, poursuit la traque des éléments de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, dans le cadre de l'opération dénommée Red Kite, cerf-volant rouge. Dans la province de Bas-Ouélé, le 26 décembre 2016, les forces de sécurité congolaises ont engagé et repoussé 8 éléments supposés appartenir à la LRA, actifs dans le parc national de la Garamba. 3 armes AK-47 ont été récupérées au cours de ces accrochages. En Ituri, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, maintient la pression militaire sur les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, auteur de meurtres, viols de bétail, pillages et viols perpétrés contre les populations civiles vivant dans les territoires de Irumu et de Mambasa. Le 24 décembre 2016, les casques bleus du contingent bengladais de la force de la MONUSCO ont, au cours des patrouilles de domination de terrain menées dans la localité de Suprême, située à 6 km au nord-ouest d'Aveba, engagé des éléments supposés appartenir au FRPI et capturé l'un d'entre eux. Le 25 décembre 2016, les éléments du FRPI ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de Kabitatu, à 1 km au nord-ouest de Guéti, qui ont repoussé les assaillants et tué l'un d'entre eux. Dans le territoire de Mambasa, l'armée congolaise poursuit avec le soutien de la force de la MONUSCO l'attaque des éléments du groupe Mai Mai dans le but de contrer leurs activités négatives et d'assurer la protection des populations civiles. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est demeurée volatile et imprévisible. Elle a été marquée dans le territoire de Beni par la résurgence d'activités négatives perpétrées par les éléments de l'Alliance démocratique, des forces démocratiques ADF, contre des populations civiles implantées dans la région d'Erigeti. En effet, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2016, les éléments supposés appartenir à l'ADF ont attaqué un groupe d'agriculteurs dans la région d'Erigeti-Mapini, 2 km au sud-ouest d'Erigeti, tué 10 individus. 5 mineurs ont été portés disparus au cours de cette attaque. Le 25 décembre 2016, les éléments de l'ADF ont fait incursion dans la région de Somboko, situé à 14 km au nord-ouest de Mai Moya, et tué 12 civils. Alertés, les FARDC basés dans la zone ont promptement été déployés sur les lieux et neutralisé 4 assaillants. La MONUSCO a également déployé dans la région de Somboko des patrouilles pour dominer le terrain et une équipe d'évaluation dans le but de dissuader toute nouvelle attaque et protéger les populations civiles. Le 30 décembre 2016, les éléments de l'ADF ont attaqué les localités de Biané et de Matiba, situées respectivement à 12 et 4 km au nord et au sud-est d'Erigeti et d'Oïcha, tué 11 individus, kidnappés 2 autres. Le 1er janvier 2017, suite à cette série d'attaques, la force de la MONUSCO a initié des actions offensives en faisant usage des hélicoptères d'attaque contre les positions de l'ADF situées au camp Allspice et dans les zones situées autour de la région du Triangle. Dans le territoire de Rutshuru, les forces coalisées FRDC et MONUSCO poursuivent la lutte contre les groupes armés par la conduite d'opérations vigoureuses. Le 25 décembre 2016, 100 éléments du groupe Mai Mai Mazembe ont attaqué la localité de Nyanzale, tué 13 individus et blessé 9 autres. Les troupes des FARDC, soutenues par la force de la MONUSCO, sont intervenues et ont engagé les assaillants, tuant 2 d'entre eux et blessant 9 autres. En outre, la force de la MONUSCO et les FARDC ont mené le 10 janvier 2017 une opération dénommée Eagle Eye 1, l'œil de l'aigle 1, contre les FARDC, contre les FRDL, pardon, dans les régions situées aux alentours du parc national de Virunga. Le bilan de cette opération fait état du démantèlement par les forces coalisées MONUSCO et FARDC de 2 postes de contrôle des FDLR, de la destruction de plusieurs baraquements et de la récupération d'explosifs, de roquettes et de panneaux solaires. Dans le territoire de Lubero, le 30 décembre 2016, environ 60 éléments du groupe Mai Mai Mazembe ont attaqué les positions des FARDC situées dans la localité de Kassando, à 3 km au sud-ouest de Kirumba. 4 miliciens ont été tués au cours de ces accrochages. Le 2 janvier 2017, des troupes de FARDC ont mené des opérations de bouclage et de ratissage au quartier Katindo à Goma, récupéré 17 armes AK-47 et arrêté 11 éléments impliqués dans les préparatifs d'attaque contre les infrastructures érigées dans la région de Goma. Le 21 décembre 2016 à ce jour, du 21 décembre 2016 à ce jour, 8 éléments en provenance des groupes armés, dont 2 du groupe Mai Mai Natura et 6 des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, se sont rendus aux forces congolaises et onusiennes déployées dans la province. Au sud Kivu, la situation sécuritaire a été jugée calme et sous contrôle, hormis quelques incidents liés au banditisme rapportés dans la région de Bukavu. Au Tanganyika, la situation sécuritaire demeure volatile du fait de la recrudescence d'incidents liés au conflit interethnique entre les communautés Luba et Pygmé, particulièrement dans la région de Manono. En effet, les 7 et 9 janvier 2017, les éléments du groupe Pygmé ont lancé des attaques contre les positions des FARDC situées dans la région de Manolo, à 166 km au sud-est de Nyunzu, tué une femme et blessé plusieurs autres. Toutefois, l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO continue de fournir des efforts pour mettre un terme aux tensions entre les deux communautés. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 3214 patrouilles armées, dont 1145 nocturnes, et fourni 161 escortes pendant la période sous examen.
Oui, tous nos remerciements au lieutenant-colonel Serge Hague pour toutes ces informations d'ordre sécuritaire à travers les différentes provinces de la RDC.